Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter et soyez les bienvenus dans l'Instant M.
C'est passé les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
En méprisant souverainement l'idée qu'on serait tous condamnés à lire sur un écran, des entrepreneurs baptisés Sopress sont en 2015 passés à l'attaque des kiosques, misant tout sur le papier. Society, leur magazine de société bimensuel, fête ses 3 ans, il s'est imposé, figurez-vous, clamant haut et fort sa volonté de, je cite, « ne pas militer, ne pas donner de leçons de morale, mais de raconter des histoires ». Bon d'accord, mais les histoires qu'ils racontent, ces gens-là, elles disent quoi? Un journal, c'est plus qu'un morceau de papier avec des mots et des images imprimées dessus, c'est une somme de choix, c'est une parole qui fait irruption dans l'espace, donc dans le débat public. Ça vaut le coup de l'interroger, donc. D'autant que Sopress applique sa recette tous azimuts, crée et rachète des jours.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Franck Hannes.
Bonjour.
J'ai l'impression de vous avoir assommé totalement avec ce lancement.
Non, c'était très bien.
L'affaire a commencé en 2003 déjà. Je peux dire que le numéro des 3 ans de Society, je le montre si vous nous regardez en vidéo, vient de sortir en kiosque. Est-ce que c'est un spécial Russie? Claude Askolovitch l'a cité dans sa revue de presse tout à l'heure. Je rappelle aussi que l'affaire a commencé en 2003 avec le magazine SoFoot, que longtemps après est né Pédale, le cyclisme, Tampon pour le rugby, Running Hero, c'est comme ça qu'on dit, pour la course à pied. Bientôt le hippisme, drôle d'idée.
Ouais, drôle d'idée.
Pourquoi
Dada.
Le hippisme? Dada.
Dada, déjà parce que Dada, ça me faisait marrer comme nom. Donc ça a mis un peu de temps à se concrétiser parce qu'il fallait qu'on ait un accord de coexistence, que la marque était déjà déposée. Donc voilà. Mais j'aimais beaucoup le nom Dada. En fait, c'est un peu comme Pédale sur le vélo. J'y connaissais rien au vélo à la base. On m'a raconté des histoires de vélo. Donc quand je dis on, c'est des gens de la rédaction qui m'ont dit ouais, le vélo c'est super. Je faisais un peu de résistance au début. Je croyais que le Tour de France c'était un truc un peu naze. Et en fait, ils m'ont convaincu que c'était pas du tout le cas, que j'y comprenais rien.
Et là, on vous a raconté des histoires de canassons.
Ouais.
Donc à chaque fois, ça part par une bonne histoire. Mais c'est ça, ça va être tout le sujet de cette interview.
Ça part à chaque fois par des
bonnes
histoires.
Est-ce qu'il y a une bonne histoire à raconter?
Et des fois, s'il y a un petit nom qui est cool, ça aide. Et donc, Pédale, ça me faisait marrer.
J'en ai un à vous suggérer.
Et Dada.
Le seul sport que j'aime, c'est l'aviron. Vous devriez lancer un journal qui s'appelle Galère. Ah ouais, faut ramer.
Sur l'aviron, voilà, on me l'a jamais fait, celle-là. On m'a proposé le hockey, on m'a proposé plein de trucs.
L'aviron, là. Galère. Allez hop, on rame. Alors, ça y est, c'est parti. Il faut sauver le réseau de distribution de la presse en France. La situation est extrêmement grave. Je le rappelle à nos auditeurs. L'entreprise qui distribue 4000 journaux, c'est-à-dire, il y a 25 000 points de vente, en gros, en France, hein. Donc, cette entreprise, elle s'appelle Prestalis. Elle distribue tous les quotidiens. Ça fait 300 millions d'exemplaires par an. Et 75% des magazines est en faillite. L'enjeu est énorme si on veut continuer à racheter de la presse papier. Il a été décidé que vous, éditeurs, vous alliez reverser une petite partie de votre chiffre d'affaires, 2,25%, pour enflouer le système. Sauf que ça va durer 4 ans. Alors,
c'est un problème. Non, moi ce qui me gêne, c'est que c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. J'ai rien contre...
Très concrètement, vous allez augmenter le prix de vos journaux
non,
ou pas?
Non, moi non.
D'accord.
Après, les autres font ce qu'ils veulent. Hein. Mais,
parce que ce matin, vous voyez, cette édition de Libération en kiosque avec marqué 2 euros en énorme, ça rappelle à tout le monde que la presse, ça coûte quand même très cher.
Non, nous, on n'augmentera pas le prix de nos journaux. En revanche, 2,25%, c'est plus que notre marge. C'est-à-dire que nous, en gros, pour donner des chiffres, le chiffre d'affaires en presse chez nous, c'est à peu près 10 millions d'euros par an. Et on dégage 170 000 euros de marge. Donc, avant impôt. Donc, ça veut dire que c'est moins que 2,25%.
Donc conséquence, concrètement.
Donc conséquence, potentiellement, on pourrait perdre de l'argent. Alors moi, je prends le pari du fait qu'on va essayer de vendre plus de journaux et compenser ces 2,25% en vendant plus de journaux. Donc on verra. Mais ce qui me gêne, c'est pas tant de payer 2,25%, ce qui est déjà un premier problème, mais c'est que j'aimerais savoir à quoi vont servir ces 2,25%. Si c'est pour rembourser des mauvaises gestions du passé.
Oui, ça c'est clair. Mauvaise gestion, là-dessus tout le monde est d'accord.
Voilà, ce qui est pour l'instant un peu le problème. C'est un pansement sur une jambe de bois. Dans 2 ans, on n'attendra même pas les 4 ans. Dans 2 ans, ça va à nouveau être la faillite. Donc moi, je dis moi, mais c'est nous, puisque le 1 Hebdo, on est plusieurs à se réunir.
Alternatives économiques,
philosophie magazine, etc. On s'est regroupés en tant qu'éditeurs moyens, on va dire la classe moyenne des éditeurs. Et on essaie de faire bouger un peu le système et de convoquer des états généraux de la distribution de la presse.
Vous n'avez pas l'air extrêmement confiant.
Je suis pas extrêmement confiant, c'est juste que c'est très compliqué parce qu'il y a énormément d'interlocuteurs, que c'est beaucoup d'interlocuteurs qui se parlent pas beaucoup, ou en tout cas pas assez souvent, que personne n'est vraiment d'accord, et que tout le monde a peur.
C'est
donc,
ça.
Du coup,
et donc dans 2 ans, le système va se réécrouler.
Ouais.
Et on sera à nouveau en train de faire des émissions ici, voilà. En train de dire c'est extrêmement grave, les journaux ne seront plus distribués dans vos kiosques. Voilà.
Et donc, alors qu'en plus, je pense qu'il y a un système à monter qui fonctionnera. Enfin, j'en suis intimement convaincu même. Donc, je voudrais juste que les différents acteurs se réunissent. Qu'on en discute vraiment, qu'on
et
voit si
c'est. Et vous avez
la
recette.
Je n'ai pas la recette parce que.
Mais vous avez un modèle à proposer.
On a des propositions. Après, elles sont à discuter, à confronter avec la réalité parce qu'on n'est pas les mains dans le cambouis de la distribution de la presse, malheureusement. On n'est pas administrateur chez Presstalis, on n'est pas administrateur non plus chez MLP. Donc,
allez, on fait un petit tour d'actualité des médias et on en reparle. Ça chauffe aussi du côté de la télévision. Le CSA et le ministère de la Culture et de la Communication ont montré les muscles hier. Canal+ a coupé les chaînes de TF1, écran noir depuis plusieurs jours. On vous en parle régulièrement ici même. Mais les pouvoirs publics ont rappelé qu'une partie de la population pâtit d'une mauvaise couverture hertzienne. Donc pour regarder la télévision, il leur faut. Le satellite Canal+ a donc rétabli TF1 pour ses seuls abonnés satellites. Il s'agit d'une offre spécifique commercialisée parallèlement au bouquet de chaînes payantes de Canal+. Donc pour le cœur des abonnés de Canal+, rien n'a changé. Hein. Canal+ n'a pas bougé d'un iota. La guerre avec TF1 est toujours là. À lire dans cet excellent site qui est Slate, un très long et très passionnant papier signé Aude Loriot sur les voix de femmes à la radio. Nous, mesdames, sommes privées de grave. Et du coup, nous sommes tellement moins rassurantes que les hommes au micro, ce qui nous donnerait à vos oreilles manifestement moins de crédit. Connaissez-vous le vocal fry? Vous connaissez-vous Franck Hennes? C'est cet exercice vocal destiné à baisser sa voix. Femme
comme
politique.
Ça.
Voilà, exactement. Oh. Sauf que vous avez des graves naturellement. Femmes politiques et figures médiatiques prennent des cours. Peut-être qu'il va falloir que je m'y mette, j'ai arrêté de fumer, donc forcément. Enfin, après 70 ans d'existence en kiosque, et ça, évidemment, c'est une nouvelle pour vous, Franck Hennes. Exactement, Enemy, l'hebdomadaire britannique, bible de la presse musicale en Angleterre, va disparaître de sa version papier, en évaporée, évidemment, terminée, concurrencée par les sites internet.
Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs.
Il aimait bien le NMI, ben il fallait le racheter. Non ?
Ouais.
Ce qu'on vient d'entendre, voyez, c'est la web radio de Tsugi. Vous venez de racheter, Franck Hennes, D3 Médias, c'est-à-dire, entre autres, un magazine musical mensuel du papier, je dis bien du papier, Tsugi, en kiosque, 24 000 exemplaires, même une web radio qu'on vient d'entendre, un site d'info et même une salle de concert à Paris, le Trabendo. Alors comme ça y est, vous rachetez des médias existants au lieu d'en créer. Vous êtes devenu riche, gros et vieux. Vous êtes un groupe de presse ?
Alors, déjà nous on dit pas racheter parce qu'en fait on considère que c'est plus une sorte de mariage ou d'intégration parce que justement on aime peut-être pas l'idée de grossir, je sais pas, mais en tout cas on n'aime pas l'idée de cette posture de on rachète des boîtes parce qu'on sait pas quelque chose qu'on c'est pas vraiment nous en fait, on a toujours été habitué à lancer des magazines, etc. Et il se trouve que là c'est un cas très particulier, c'est qu'on est proche des gens qui font Tsugi depuis longtemps, que c'est une idée qui est venue aussi d'eux, c'est-à-dire que c'était un échange avec eux où à un moment donné ils se sont dit que pour continuer à grandir comme il était, c'était pas plus mal s'ils étaient adossés à des gens qui avaient un peu plus de moyens, sans être non plus dans l'escarcelle d'un groupe qui dénaturerait et leur indépendance et leur ligne éditoriale.
Alors c'est ma question, justement, parce que tous vos titres, comme ce sont des créations maison, portent une empreinte éditoriale forte, elles portent vraiment la marque de votre personnalité, donc vous allez changer, Tsugi ?
Non.
Vous allez faire... Enfin, on va raconter des histoires à Tsugi, puisque c'est votre marotte.
C'est-à-dire qu'on va pas la rédaction en chef reste exactement la même. C'est Patrice Bardot qui va diriger la rédaction. Benoît Carotti est là. Toute l'équipe est encore là. Ils vont continuer à faire le magazine qu'ils faisaient et qu'ils aiment. Après, peut-être que le fait d'être d'avoir sous la main une rédaction plus large, plus de gens, plus de possibilités, donc forcément plus de propositions de sujets aussi. Peut-être que ça fera bouger un tout petit peu certaines choses, mais ça
va faire plus d'histoires à raconter et à publier.
Ils auront forcément plus d'histoires à raconter et à publier. Donc après, ça sera le choix de Patrice de prendre telle ou telle histoire et d'orienter comme il veut la rédaction.
On en parle de ces histoires.
Ouais.
Moi, j'aime bien cette idée. Ça fait 3 ans que j'y réfléchis. Ça fait 3 ans que j'attends de vous en reparler depuis la première fois que vous êtes venu nous raconter ce ça est dit. Donc, l'argument de départ, c'était nous, on publie ce qu'on a envie de lire. Ouais. C'est tout. Voilà. On publie ces histoires. Et moi, je pense que c'est un peu court et qu'aujourd'hui, on peut faire un petit bilan éditorial de ce que vous avez publié. Dans la tradition du news magazine Franck Hannes à la française, chaque titre a son ancrage idéologique. Je vous propose d'écouter Jean-Jacques Servan-Schreiber parler de l'Express en 67 et juste après lui, Jean-François Kahn sur France 5 pour les 50 ans du magazine qui analyse le positionnement éditorial et politique du journal.
Quels sont les problèmes qui, à votre avis, vont intéresser vos lecteurs dans les mois qui viennent ?
Écoutez, les lecteurs, c'est bien difficile à dire. Je cherche ce qui m'intéresse, moi. Parce que je crois que les lecteurs, ce sont des gens comme vous et comme moi. Si un sujet m'intéresse, moi, je pense qu'il intéresse les lecteurs.
L'Express était un journal, disons, de centre-gauche, qui s'était engagé très anti-gouvernemental, excessivement anti-gouvernemental, avec quelquefois vraiment des excès dans la volonté d'être anti-gaulliste et de critiquer le De Gaulle.
Où se situe Society dans le paysage politique actuel ?
Alors, l'avantage d'un magazine comme on fait, c'est qu'on n'a pas à avoir un positionnement, en tout cas j'estime qu'on n'a pas à avoir un positionnement militant et un parti pris politique au sens où on n'a pas à supporter un candidat ou un autre. Mm-hmm. Sauf s'il y avait un candidat mm-hmm. qui faisait l'unanimité mm-hmm. chez nous, mais c'est pas le cas. Donc nous, j'appelle un magazine humaniste. J'aimais cette phrase qui disait « Nous, ce qui nous intéresse, nous, on estime que ça va intéresser les lecteurs. » On a toujours été un magazine d'offres. Qu'on fasse SoFoot, qu'on fasse SoFin, qu'on fasse Society, qu'on fasse Doolittle, à chaque fois, on raconte des histoires qui nous intéressent, on fait des entretiens de gens qui nous intéressent, et on prend le pari que ça va intéresser d'autres personnes.
Mais est-ce que c'est finalement le symptôme d'une génération, finalement, parce que vous et moi, on a à peu près le même âge, qui a grandi dans la fin des grands récits politiques,
la fin des grandes idéologies, très clairement.
Et ces bonnes histoires, c'est le contraire, finalement.
Bah oui.
C'est l'opposé, c'est ce qui remplace et c'est ce qui se substitue aux grands récits politiques.
Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le voit, on est dans une période politique où le président de la République a été élu en passant le premier tour avec 36% de gens qui n'auraient pas voté pour lui. Mmh. À la base. Mmh. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il est élu sur la défection de Hamon et sur l'échec de Fillon. Il n'est pas élu parce que les gens croient en Macron au départ. Donc, même si après, il y a des gens qui peuvent se rallier à lui, au départ, il y a quand même ce positionnement idéologique qui est très flou. Et où les gens se disent, bon, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, il n'y a pas un candidat
d'ailleurs,
comme ça qui fait l'unanimité.
Couverture de l'entre-deux-tours, Macron, avec ce titre, marche ou crève. Pendant que Libération, journal traditionnellement de gauche, dit, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Vous, non ? Vous ne dites pas, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Vous titrez, marche ou crève. C'est beaucoup plus ambigu.
C'est plein
de doutes et de scepticisme aussi.
C'est surtout très inquiet à ce moment-là, puisque en face, il y a le Front National et que pour nous, le Front National, c'est la mort.
Mais ce n'est pas une déclaration d'amour à Macron non plus.
Non plus. D'ailleurs, quand Macron a été élu, notre couverture n'était pas une couverture de...
À méditer.
Voilà.
À méditer. Absolument.
C'était pas
à
une couverture de succès. C'était à méditer.
Et d'ailleurs, on a remarqué aussi que vous avez aucune fascination pour ce que mes camarades Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice et Alex Vizorek de Par Jupiter appellent la Startup Nation. C'est-à-dire, vos couves, ils ont cassé Internet, Uber, le crash, Startup, ton univers impitoyable. Vous avez aucune fascination pour cet univers que promeut Emmanuel Macron en sous-texte?
Non, j'ai pas de fascination pour l'univers des startups, même si je trouve ça très bien à certains niveaux. Il y a des aspects qui ne me plaisent pas, il y a d'autres aspects qui me paraissent plus cool, mais on se rend compte que quand on rencontre des patrons de start-up ou quand on va voir des grands patrons à Silicon Valley, etc., qui sont souvent des gens qui sont anti-establishment, en fait ils ont leur propre establishment à eux, en fait. C'est ça qui est marrant, et d'ailleurs c'est ce qui était ressorti quand j'avais interviewé Niel et qui était super intéressant, parce que finalement il est contre l'ordre établi, contre les parcours avec l'ENA, etc., etc., mais en fait il a une autre caste qu'il privilégie, c'est-à-dire le geek entrepreneur, pour lui, c'est ça la caste de demain. Donc du coup, c'est juste des différences de registre et de
j'ai un petit extrait de Xavier Niel, parce que évidemment, cette interview de Xavier Niel dans Society, tout le monde s'en souvient, en tout cas tous ceux qui l'ont lu.
On pense une chose, c'est que si aujourd'hui vous avez l'impression que dans votre vie tout va mal, que votre vie professionnelle marche pas bien, il y a une chance, il y a un truc qui marche bien, c'est de créer votre boîte. Parce qu'au moins là vous êtes sûr que votre patron vous emmerdera pas, il sera sympa avec vous parce que ça sera vous-même et que vous allez pouvoir créer exactement ce que vous avez envie de faire et le matin quand vous vous lèverez, vous serez contente de faire ce que vous allez faire.
Switch.
Un petit mot sur vos interviews. Là, c'était un extrait de Xavier Niel sur le site Combini. Chaque fois que vous publiez une grande interview comme ça, il se passe quelque chose, vous créez quelque chose. C'est devenu une des marques de fabrique du journal. Édouard Philippe, alerte à Matignon, c'est le titre de la couve, avec deux pépés en maillot de bain. Et ce sous-titre, qui vaut peut-être pour toutes les interviews du magazine, entretien sans bouée de sauvetage. Xavier Niel, on l'a dit, Delphine Ernotte, Jean-Luc Mélenchon sur 10 pages le 8 juin, ça a été quand même un gros coup, etc. etc. Comment vous les raconteriez, ces interviews? Au ton très relâché, où les choses se disent très très cash?
À hauteur de lecteur.
C'est-à-dire
que quand on va voir un homme politique ou une personnalité comme Xavier Niel ou etc., on y va comme n'importe, comme on estime que n'importe qui pourrait y aller. C'est-à-dire qu'on n'est pas du sérail, on n'est pas, je suis pas dans les petits papiers de Niel ou d'un tel. Donc quand je vais le voir, je lui pose les questions que ma mère, mon frère, mon père, mon pote, ma meuf pourraient lui poser, quoi. Et j'ai juste une façon de parler, et moi et mes camarades, parce que c'est...
Vous y allez à plusieurs.
On y va régulièrement à plusieurs. Même si quand on y va plusieurs, on aime bien qu'il y en ait un qui est le lead. Parce qu'on prépare, en fait, quand on prépare nos interviews, c'est très spécial. C'est-à-dire qu'on prépare énormément. Mais par contre, on vient sans questions, souvent.
C'est-à-dire que... Donc c'est une discussion à bâton rompu.
C'est une discussion à bâton
rompu. Et c'est là où on se lâche, et c'est là où on dit des choses. Elles sont relues ou corrigées avant publication, ces interviews?
Certains demandent à être relues.
Vous acceptez?
Et des fois, on accepte. Mm-hmm. Mais la différence...
Xavier Niel, Delphine Ernotte, ça a été relu et corrigé ou pas?
Ernotte relu, Niel non.
D'accord.
Le truc, c'est que comme on pose des questions qui sont des rebonds sur les réponses, c'est très difficile de changer la réponse d'avant. Parce que si on change la réponse d'avant...
Et ben voilà, bah, la question suivante, la question, elle reste et elle ne veut plus rien dire. Donc on est coincé. Voilà,
et moi, je veux pas que nos questions ne veulent plus rien dire. Donc,
c'est ça.
Donc on se bagarre pour que quand il y a relecture, il y ait assez peu de changements.
Après, ce qui est très intéressant dans l'approche de ces interviews, c'est qu'on voit bien que de la même manière que vous consacrez des portraits et des unes de manière exactement de la même manière à des personnalités de droite comme de gauche, vous abordez ces interviews et sans a priori idéologique. Et en même temps, on s'est demandé, parce qu'on a re-regardé toutes vos couves depuis le début, je vous jure, si Society au fur et à mesure s'était pas conscientisé. 26 octobre dernier, votre couve, Laurent Wauquiez, le pire de la droite.
Ouais, mais ça c'est pas...
Le pire, ça veut dire que au départ la droite c'est mauvais, et que Wauquiez c'est le pire, ça veut dire quelque chose.
Non, bah, ça aurait pu être le pire de la gauche. Pour un autre, on aurait pu titrer, je sais pas, pour ceux qui n'aiment pas Mélenchon, Mélenchon le pire de la gauche, pourquoi pas. Il se trouve que Wauquiez prend des valeurs de droite, qui parfois peuvent être des valeurs tout à fait intéressantes, j'allais dire, les exproprie, en tout cas, les emmène sur un territoire qui nous paraît très dangereux.
Voilà. Couve sur Bernard de la Villardière. Bernard de la Villardière, pardonne-moi Bernard. Présentateur réac de M6 et papier extrêmement à charge, qu'il a mis dans une colère d'ailleurs totale. Ah bah oui, il en a parlé partout.
Découvre... Parce que le papier n'était pas si à charge.
C'est vrai. Par rapport à la réalité du bonhomme.
Ouais.
D'accord. Découvre engagé après l'affaire Théo. Une très belle couve d'ailleurs, magnifique. Avec une matraque qui dessinait le mot viol. Enquête sur les bavures à caractère sexuel de la police française. Portrait de John Palais. Il combat les banques sans armes ni violence. Non, mais ça y est, Society, c'est devenu un magazine de gauche ou pas?
C'est pas un magazine de gauche, c'est un magazine humaniste. Alors après, est-ce que l'humanisme, c'est une valeur de droite ou une valeur de gauche? Je pense que c'est une valeur qui est beaucoup plus partagée qu'un clivage droite-gauche. Mais c'est un magazine humaniste. C'est-à-dire qu'on essaie d'être le plus juste et plein de bon sens possible. Donc après, il y a certains trucs.
Il me semble que Yann Barthès m'a répondu la même chose de quotidien.
Non, mais
et qu'on perd les pédales avec cette génération.
Non, mais très très clairement, il y a des gens qui sont de droite et des gens de gauche dans la rédaction, et ça me pose moi aucun souci.
Et le journalisme engagé, ça veut dire encore quelque chose?
Oui.
Oui.
C'est juste que c'est un journaliste. Ça veut pas dire que c'est... On n'est pas du tout un magazine apolitique. Je pense qu'on est un magazine engagé et politique.
Ça y est, j'ai
Mais au sens humaniste du terme.
Pas, Society.
On n'est pas un magazine militant.
Et en kiosque. 3,90€, spécial Poutine. C'est l'anniversaire des 3 ans. Merci Franck Hennez.